Écho d'économie.
À la une, ce flou constaté dans la gestion des recettes du secteur minier. Pas de documents comptables au siège des entreprises citées. Les grandes opérations se font à l'étranger pour les minerais de la RDC. Les ONG qui dénoncent cette pratique affirment que c'est un manque à gagner considérable pour le gouvernement congolais. Et puis, la banque mobile ou le mobile banking n'atteint pas les coins reculés de la RDC malgré le besoin ressenti. Cette affirmation est le résultat d'une enquête menée par Elan RDC, un projet de la coopération britannique. En province orientale, le gouvernement prône la relance du secteur industriel. Sceptiques, les opérateurs économiques ne croient pas en ce projet qui date de très longtemps d'après eux. Bonsoir et bienvenue à tous. Le boom minier en République démocratique du Congo ne profite pas au trésor public. Les investisseurs dans le secteur des mines en RDC gèrent seuls les investissements sans l'œil de contrôle du gouvernement congolais. C'est le cas des entreprises Tenkefungurume Mining et Kamoto Copper Company, citées dans le rapport préliminaire publié ce mardi à Kinshasa par 15 organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles. Elles disent avoir mené leur enquête sur base de l'audit du gouvernement dans TFM et KCC. Constat dégagé, pas de documents comptables au siège de ces entreprises. Les grandes opérations se font à l'étranger pour les minerais de la RDC, ce qui occasionne un manque à gagner important. Maître Georges Bokundu, chef de bureau Sarwa, une des ONG qui ont participé à cette enquête, le dit au micro de Daniel Tambinzoni.
C'est-à-dire qu'il y a 15 organisations de la société civile qui œuvrent dans le secteur des ressources naturelles qui se sont inquiétées par le fait que le boom minier actuel qui a amené presque le pays à près de 1 million de tonnes de cuivre, presque 5 tonnes d'or et à peu près 100 tonnes de cobalt n'arrive pas à booster l'économie du pays. C'est-à-dire qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a eu réellement retombée que nous devions avoir? S'il n'y a pas eu de retombée nécessaire, c'est-à-dire il y a quelque part où la fiscalité congolaise ne se retrouve pas. C'est-à-dire que la fiscalité des autres pays profite du boom minier congolais. C'est-à-dire qu'on estime que peut-être il y a beaucoup de grandes opérations qui se font en dehors du pays pendant que les minerais se trouvent dans notre pays. Ça, c'est un des deux. On regarde ces investissements, des petites enquêtes que la société civile a fait. On découvre que ce sont seuls les investisseurs qui gèrent les investissements. Le gouvernement se fie aux déclarations des entreprises. La preuve en est que c'est le gouvernement qui a initié l'audit, appelé audit BDO, auprès des grandes compagnies minières.
Il faut signaler ici que la société civile a mené ses enquêtes dans Tenkefungurume Mining et Kamoto Copper Company KCC.
Parce que le gouvernement avait initié l'audit sur les deux compagnies et que l'audit a posé des problèmes. Le rapport provisoire de ces maisons d'audit a soulevé des questions qui ont attiré l'attention de la société civile, notamment les questions de la tenue des comptabilités en dehors du pays. Il ne faut pas oublier que dans le pays, les investissements miniers sont les plus importants et que si l'État ne tient pas compte, ne vérifie pas, c'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux investisseurs de connaître seuls, de gérer seuls et d'amortir seuls ces investissements. C'est cela qui a attiré l'attention de la société civile avec comme objectif final, c'est d'amener l'État à comprendre que la gestion de ce secteur, si on peut avoir des retombées, il faut nécessairement les gérer bien. Il faut les gérer bien parce qu'on les contrôle bien, parce qu'on les gère avec les partenaires. Il ne faut pas laisser la liberté aux partenaires de décider seuls sur tout, sur l'emprunt et sur les remboursements et sur la date qu'il doit commencer à payer les bénéfices.
En parlant de ressources naturelles, sachez que la RDC dispose de 11 blocs pétroliers non encore attribués et le seul producteur du pétrole actuel de la RDC, Perenco, fait entrer 400 millions de dollars américains au budget du pays. Propos du ministre des Hydrocarbures hier lors d'un exposé à l'occasion de la semaine française de Kinshasa. On croit à Crispin Atama Tabé, seule la loi portant régime général des hydrocarbures, une fois adoptée, pourra permettre d'aller au-delà de ces chiffres avec l'exploitation du pétrole par rapport aux mines. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Depuis 2009, qu'on n'a plus attribué de blocs pétroliers. Donc la décision de 2009 reste maintenue. Depuis l'époque coloniale jusqu'à un passé récent, la RDC a trop misé sur les mines. Ça ne nous a pas tellement fait avancer. Faites les bilans à la limite. Par contre, si vous faites une étude comparative avec les pays producteurs de pétrole, rien qu'africains, vous allez vous rendre compte que nous sommes en grand retard par rapport à ces pays-là. Ça va contribuer au budget national, mais je ne pense pas que ce soit au-delà de ce que le pétrole pourrait nous apporter. Une expérience avait été tentée en 1969 avec Chevron dans le bassin côtier. Les champs d'exploite présentement perdent un coup. Ce n'est qu'en 2005 que le président de la République a décidé qu'il fallait orienter, tourner le regard vers le pétrole.
La banque mobile ou le mobile banking n'est pas du tout opérationnel dans l'arrière-pays de la RDC. C'est ce qu'a affirmé Elan RDC. Il s'agit au fait d'un programme financé par la coopération britannique. Cette structure a organisé ce mardi un atelier de présentation des résultats de l'enquête qu'elle a menée sur comment accélérer l'expansion de la banque mobile en RDC. Paul Matendo nous raconte.
L'enquête menée par Elan RDC révèle que les institutions financières traditionnelles, c'est-à-dire les banques, fournissent des services aux zones urbaines. Ces services touchent rarement les clients à faibles revenus et en particulier ceux qui vivent dans les milieux reculés. Les entreprises des télécommunications avec la Banque centrale du Congo ont lancé il y a quelques années le mobile banking pour faire face à cette insuffisance. Cependant, le constat est que ces services n'arrivent pas partout, d'où l'importance d'aider les opérateurs des télécommunications à adapter leurs services aux besoins du marché, a indiqué Saint-Tiche Chibandan, chargé du secteur mobile banking à Elan RDC.
Le mobile money n'est pas vraiment très opérationnel dans les milieux reculés, mais en fait c'est pour cela que nous avons fait appel aux opérateurs de téléphonie mobile pour voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent travailler pour couvrir les milieux reculés.
Les opérateurs des télécommunications qui reconnaissent cette situation se disent prêts à collaborer avec Elan RDC afin d'étendre la banque mobile dans l'arrière-pays.
Et les résultats pourront très certainement être utilisés pour mettre en place des nouvelles approches pour mieux servir la population congolaise.
Le mobile money, s'il faut le dire en RDC, c'est encore naissant. Il n'y a que 2 ans que le mobile money existe en RDC. Nous-mêmes, en interne, on travaille aussi d'arrache-pied pour essayer vraiment d'étendre le mobile money dans toute la République, surtout dans le coin reculé.
L'expansion de mobile banking à travers la RDC serait une solution idéale aux problèmes que rencontrent les institutions financières traditionnelles, notamment la paie des fonctionnaires de l'État.
Et que comprendre de ce concept mobile banking, Paul Matendo?
Les banques mobiles, en anglais mobile banking, correspondent aux services financiers accessibles par un téléphone portable ou un autre appareil portable connecté à l'Internet. Ces services sont, entre autres, la consultation des soldes, les transferts des sommes, le paiement des factures, l'achat des unités prépayées. La complexité de ces services varie entre des simples textos jusqu'aux applications en ligne. Les banques mobiles sont utilisées dans de nombreuses régions démunies d'infrastructures bancaires, surtout dans les régions éloignées ou rurales. Elles sont populaires dans les pays dont la plupart de la population manque de comptes bancaires et où les banques ne se trouvent que dans les grandes villes. Les banques mobiles connaissent actuellement un essor en Afrique. Un rapport du Forum économique mondial parle des 16% des adultes en Afrique subsaharienne qui ont utilisé un téléphone portable pour des transactions financières ces 12 derniers mois contre seulement 3% dans les pays en développement. Ce mode de paiement facilement accessible a séduit les pays en développement comme la République démocratique du Congo. C'est en août 2011 que Jean-Claude Massangou, alors gouverneur de la BCC, a présidé une réunion sur la mise en œuvre du mobile banking en RDC. Alors, la question, comment s'opère pratiquement le mobile banking? C'est simple, il faut avoir un téléphone portable et être dans un réseau qui a les services de la banque mobile. Vous rechargez sur votre téléphone un montant déterminé, par exemple 100 $ américains que vous destinez à votre correspondant. Ce dernier devra aussi avoir un téléphone portable du même réseau. Le montant des 100 $ est rechargé sous forme de crédit. Votre correspondant qui reçoit les messages que vous lui envoyez se présentera à une agence de votre opérateur dans son milieu, présente le message et l'agence lui remet le montant qui lui a été envoyé. Il faut noter que pour plus de sécurité, l'opérateur prévoit pour chaque usager un code secret ou un mot de passe dans le souci de protéger les opérations.
Écho d'économie. En Ituri, les opérateurs économiques doutent de l'effectivité de la relance industrielle telle que prônée par le gouvernement de la province orientale. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana, la reprise de la pêche semi-industrielle au lac Albert et la reprise des usines de transformation des produits agricoles. Ce scepticisme a été exprimé hier dans un échange avec l'Agence pour la promotion des investissements et financements de la province orientale.
Près de 40 hommes d'affaires ont participé à cet échange qui se déroulait dans la salle des réunions de la Fédération des entreprises du Congo FEC Ituri. Selon le bureau de l'industrie de l'Ituri, les usines de transformation de coton, café et maïs, les savonneries, menuiseries et imprimeries sont là les quelques industries en activité qui ont besoin de financement pour augmenter leur capacité de production. Les opérateurs économiques estiment que le gouvernement devrait plutôt envoyer une délégation avec du cash car les industries étaient déjà listées lors de la table ronde économique. Tenu à Kisangani. Thierry Lekolo est commerçant de la place.
Si on peut appeler ça tourisme, je ne sais pas, mais l'année passée, nous avons été à Kisangani, invités par le gouvernorat de la province dans le cadre de la table ronde économique des bailleurs de fonds. Imaginez depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, qui a déjà vu quelque chose de positif comme résultat. Alors nous voulons maintenant voir la concrétisation de ce qu'ils nous ont promis, nous les petites industries, pour promouvoir l'économie de l'Ituri.
Charles Loututa, directeur général de la PIF, a révélé que pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana, le gouvernement provincial a déjà reçu de ses partenaires 750 000 dollars sur les 2 millions attendus. Bounia, Delbe Waïsala, Radio Kapi.
Ainsi s'achève ce numéro d'Écho d'économie, une édition supervisée par Nicole Ngaka, mise en onde par Sylvain Matundu et suivie par vous. Merci.